Bonjour, c'est Cédric Ingon sur Choc FM, le 105.1 Choc FM, le chocfm.ca pour cette première émission du mois de novembre 2023. On est le samedi 4 novembre, émission enregistrée. J'aurais bien voulu venir en studio, mais jour particulier pour moi, c'est mon anniversaire, donc je vais rester en famille. Et plus tard dans ce mois de novembre, on essaiera d'amener des invités. Pour l'instant, il n'y a personne de disponible. Voilà. Donc, pour cette émission du premier samedi de novembre 2023, on va commencer bien sûr par le football, le soccer. De façon inhabituelle, on ne va pas commencer par les championnats, on va commencer par le ballon d'or parce que c'était ça la grosse actualité dans le monde du football ou du soccer. Et ensuite, on va parler évidemment de tous les championnats, que ce soit la France et les autres ligues européennes. On va dire un mot sur la MLS avec les playoffs qui sont en cours. On va dire un mot aussi sur les incidents qui ont eu lieu en France lors du match qui aurait dû avoir lieu entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, parce qu'il y a eu d'énormes répercussions là-dessus. On va dire, ça ce sera dans la première partie, on va dire évidemment un mot aussi sur la NFL, sur la CFL, puisque tout cela est assimilé, disons, à du football. Mais bon, c'est un football un petit peu particulier. Ça ce sera pour la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler des ligues traditionnelles. Là, on va parler de la Ligue nationale de hockey. On va parler de la NBA avec un gros format, puisque il y a maintenant ce qu'on appelle le Season-in Tournament. Donc, on va parler de cela. On va parler aussi de la NBA, évidemment. Ben, on vient de parler du Season-in Tournament. Mais on va parler aussi, on va dire un mot, revenir un mot sur la Coupe du Monde de rugby qui s'est terminée en France de façon un peu, disons, pas très intéressante pour la France, là, puisque la France a été éliminée relativement tôt, mais on parlera évidemment de ce qui s'est passé pour la fin de cette compétition-là. Donc, on est le samedi 4 novembre, c'est Cédric Ngone pour vous servir en ce jour où je fête mon Xème anniversaire. Je ne dirai pas mon âge, il paraît que je fais plus jeune. Mais ça, c'est quand je me rase, hein, je pense. Allez, toujours très content d'être avec vous. On va commencer évidemment par le foot ou le soccer, comme on l'appelle, puisque la cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu en France. C'est souvent, c'est où? C'est en France, je pense, au Théâtre du Châtelet. C'est comme ça, dans le centre-ville de Paris. Et je vais vous donner le classement officiel. Bon, déjà, je vais vous donner d'abord tous ceux qui ont reçu un trophée durant cette cérémonie-là qui a eu lieu le 30 octobre 2023, donc lundi, c'était il y a quelques jours. Alors, pour le ballon d'or féminin, c'est l'Espagnole Aitana Bonmatí qui joue avec le FC Barcelone, qui a remporté plusieurs trophées en cours de saison, notamment la Coupe du Monde féminine et puis aussi la Champions League européenne. Donc très bonne joueuse, mais j'avoue que je n'ai vu aucun de ses matchs, j'avais jamais entendu parler d'elle avant, mais bon, j'ai vu ses statistiques et les observations qui ont été faites sur elle. Ben, écoutez, félicitations à elle, tout simplement, il n'y a pas autre chose à dire, quoi. Vinicius Junior, donc, il a remporté, ces joueurs brésiliens du Real Madrid, qui a remporté le trophée Socrates, qui est remis à un joueur qui a non seulement du talent sur le terrain, mais aussi une grande implication dans les œuvres sociales et humanitaires. Et Vinicius Junior, justement, qui a créé une fondation qui aide les jeunes des quartiers défavorisés au Brésil, vous savez ce qu'on appelle les favelas, donc qui leur permet non seulement d'allier leurs talents sur le terrain pour devenir comme des grands futurs grands joueurs, mais aussi d'envisager d'avoir une carrière professionnelle, disons. Donc Vinicius Junior qui a reçu ce prix-là. Et puis c'est d'autant plus, comment dire, faut les féliciter à double titre, parce que Vinicius, il connaît une saison un peu en demi-teinte, mais surtout il a été victime d'actes racistes tout au long de la saison, là, depuis l'année dernière, et puis qui reste solide par rapport à ça. Donc le fait qu'il reste impliqué par rapport à ses œuvres sociales et qu'il arrive toujours à performer sur le terrain, ça en fait doublement quelqu'un à féliciter. Donc Vinicius Junior pour le trophée Socrates. Ce qu'on appelait le Gerd Müller, le trophée Gerd Müller. Donc Gerd Müller qui est un ancien grand joueur allemand des années 70, si je me rappelle bien. Donc, tout simplement, le meilleur marqueur de toute la saison. Erling Haaland, norvégien, 56 buts, je pense, de mémoire, comme ça je vous le dis, qui a remporté ce trophée-là. Ben, Erling Haaland, pour à mon avis, qui aurait dû remporter le Ballon d'Or 2023, puisqu'il a cumulé tout simplement les plus grands titres de la saison, à la fois le championnat d'Angleterre, donc ce qu'on appelle la Première Ligue, la Champions League, donc meilleur club européen, mais aussi le trophée de meilleur marqueur, que ce soit de la Ligue des Champions, mais aussi du championnat d'Angleterre. Il a battu tous les records. Donc Erling Haaland, c'était le meilleur joueur tout simplement de la saison. Maintenant, le problème, c'est qu'il est norvégien. Et déjà, la Norvège ne sera pas qualifiée pour l'Euro. La Norvège n'a pas quali ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde l'année dernière. Donc, ça fait comme un genre de désavantage pour lui. C'est dommage pour Haaland. Mais je pense que dans les années à venir, à moins qu'il réussisse encore une saison plus forte que celle qu'il a accomplie l'année dernière, ça va être vraiment compliqué pour lui de pouvoir espérer un jour remporter le Ballon d'Or. Ne fût-ce que parce qu'il n'est pas originaire d'une grande puissance du foot. Il faudrait vraiment plus que ça, que ses buts. Et puis dans le style aussi. C'est un peu compliqué pour lui de s'affirmer en tant que joueur. Haaland, c'est un pur finisseur. C'est pas quelqu'un qui va faire des arabesques, des danses avec le ballon, qui va faire des grandes chevauchées de plusieurs dizaines de mètres sur le terrain, ou qui va vous faire des, vous savez, jongler avec le ballon, tout ça. Il n'est pas dans l'esthétique, il est dans l'efficacité pure. C'est pour ça que on dit de lui que c'est un finisseur. C'est tout simplement un finisseur. Et il y a aussi son style. C'est quelqu'un qui fait plus d'1 m 90, probablement plus de 90 kilos. Donc il est massif, il est imposant sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui a un jeu hyper élégant à voir. Moi, je le comparais comme par exemple à un LeBron James au basket NBA. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est beau à voir tout simplement. Ce qui fait qu'on a du mal à apprécier ses qualités. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait dribbler. C'est quelqu'un qui a une frappe puissante. C'est quelqu'un qui sait faire preuve de certaines finesses dans son jeu. Mais quand on le compare à des joueurs comme évidemment Messi, et comme Mbappé même, qui vient juste derrière, ben c'est assez compliqué pour Haaland. Maintenant, trophée de meilleur marqueur de la saison, tant mieux pour lui. Le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune joueur de la saison, Jude Bellingham. Ben écoutez, Bellingham, là c'est un peu contestable, parce que Bellingham, il a été jugé sur sa saison accomplie à Dortmund. Et à l'occasion de cette... Il a joué une cinquantaine de matchs, il a marqué, je pense, une quinzaine de buts, quelque chose comme ça, moins de 10 passes. Donc, belle saison, mais pas saison extraordinaire. Par contre, lorsqu'il a joué avec l'équipe d'Angleterre, on a vu tout de suite un énorme potentiel. C'est quelqu'un qui... C'est un joueur, clairement. C'est un joueur, comment on dit, générationnel. C'est un joueur, non seulement qui peut jouer au milieu terrain, qui peut aussi jouer en attaque, qui a une très belle couverture de balle, qui a de bonnes qualités techniques, qui est intéressant à voir jouer, qui a une vraie intelligence de jeu. Donc, Jude Bellingham, oui, il méritait son trophée, mais pas du point de vue statistique. Je pense que le jury du Ballon d'Or, notamment pour le trophée Copa, de meilleur jeune joueur, était influencé par son début de saison au Real Madrid, parce qu'il était absolument fantastique. Vous voyez, sur les quoi? Les 12 premiers matchs, je pense qu'il joue avec le Real Madrid, il a 12 buts. Et là, il y a quelques jours, lors du Clasico, donc la confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone, il a marqué tout simplement les deux buts qui ont permis au Real Madrid de s'imposer dans le Clasico. On le compare déjà à Cristiano Ronaldo, alors que ce n'est pas le même poste et ce n'est pas le même style. Vous voyez, Bellingham, il marche sur l'eau tout simplement en ce moment. Maintenant, meilleur jeune joueur, moi je l'aurais plutôt donné au jeune du Bayern Munich, là, Jamal Musiala, qui a fait un très très beau début de saison, tout simplement, quoi. Début de saison, une belle saison 2022, voilà. Lionel Messi, Ballon d'Or, ben, on va détailler le classement un peu plus tard. Le club de l'année, c'est Manchester City, le club de champion d'Angleterre, champion d'Europe. Meilleur gardien, donc le trophée Yashin, du nom de l'ancien gardien russe. Je pense que c'est le seul gardien qui ait remporté le Ballon d'Or. Emiliano Martinez, je ne suis pas convaincu. Vraiment pas. Vraiment pas. Je pense que sur une trentaine de matchs au cours de l'année 2022-2023, une trentaine, une quarantaine de matchs, il encaisse près de 90 buts. Du point de vue statistique, ce n'est pas extraordinaire, mais on regarde en tête ça, son attitude pendant la Coupe du Monde. On regarde en fait son fameux arrêt décisif face au joueur français, là, comment il s'appelle? Kolo Muani. Donc, à cause de ça, meilleur gardien de l'année, je ne sais pas. Franchement, Emiliano Martinez, non, vraiment pas. Allez, le club féminin de l'année, c'est tout simplement le FC Barcelone, champion d'Espagne et champion de la championnat d'Europe. Ben voilà, c'est logique. Voilà, emballé, c'est pesé, donc c'est normal. Maintenant, je vais vous donner en détail tout le classement du Ballon d'Or, en commençant par la 30e place. Alors, 30e, c'était Rubén Dias du Portugal, joueur de Manchester City. 28e ex aequo, Randal Colomani qui joue à l'Eintracht Francfort, qui joue maintenant Paris Saint-Germain. Ensuite, Martin Odegaard, qui est norvégien, qui joue à Arsenal. 27e, Nicolas Barella, joueur de l'Inter Milan, joueur italien. 26e, Jamal Musiala, de nationalité allemande, qui joue au Bayern Munich. 25e, Josko Guardiol, qui est croate, qui joue à Leipzig, qui joue maintenant à Manchester City. 24e, Bukayo Saka, très joueur talentueux, du anglais, qui joue à Arsenal. 23e, André Onana. Je pense c'est. Oui, il y a plusieurs Africains dans ce classement-là, mais c'est le seul gardien africain dans les 30, donc joueur de l'Inter Milan à l'époque, qui joue maintenant à Manchester United. Kim, de Corée du Sud, qui joue à Naples, qui joue maintenant à Bayern Munich. Antoine Griezmann, 21e, qui joue à l'Atlético Madrid et attaquant de l'équipe de France. Lautaro Martinez est 20e, joueur de l'Inter Milan, argentin. Harry Kane, 19e, joueur anglais. Qui joue à Tottenham, qui joue maintenant au Bayern Munich. Jude Bellingham, 18e. Il faut parier que l'année prochaine, il sera probablement dans le top 5. Donc, lui, joueur très jeune, qui est au Borussia Dortmund, qui joue maintenant au Real Madrid. 17e, Varak Sekiela, j'ai peut-être pas bien prononcé, joueur géorgien, très bon dribbleur, qui joue à Naples. Donc, il était 17e. 16e, Karim Benzema, donc joueur français, qui est au Real Madrid, qui joue maintenant en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad. 15e, Emiliano Martinez, donc joueur argentin qui joue à Aston Villa. Gundogan, joueur allemand qui était à Manchester City, qui joue maintenant au FC Barcelone. 14e. 13e, Yassine Bounou, donc joueur marocain né à Montréal, qui est au FC Séville, qui joue maintenant à Al Hilal en Arabie Saoudite. 12e, Robert Lewandowski, donc joueur polonais, qui est au FC Barcelone et attaquant de l'équipe de Pologne. Mohamed Salah est 11e, joueur égyptien qui est à Liverpool. Luka Modric, 10e. Voilà, Modric, c'est le papy de ce classement-là, à 38 ans. Milieu de terrain, presque attaquant de l'équipe de Croatie qui joue Real Madrid. 9e, Bernardo Silva, joueur très élégant portugais de Manchester City. Victor Osimhen, c'est le premier Africain du classement qui a fini 8e. Donc, attaquant nigérian qui joue à Naples, qui a fini meilleur buteur du Calcio. 7e, Julian Alvarez, joueur très talentueux, un peu discret quand même, mais champion du monde avec l'Argentine. Donc, il a gagné tout cette année. Champion du monde, champion d'Europe, champion d'Angleterre. Je pense qu'il a fait la Cup aussi avec ça. Donc, oui, 7e du classement. Vinicius Junior, brésilien attaquant du Real Madrid. Rodri, joueur très talentueux aussi de l'équipe d'Espagne qui joue à Manchester City. Donc, 5e, Kevin De Bruyne, qui était, je pense, troisième l'année dernière de ce classement-là du Ballon d'Or. Donc, de Manchester City, milieu de terrain très talentueux, offensif de l'équipe de Belgique. Troisième, Kylian Mbappé, qui enfin accède au trio de tête du Paris Saint-Germain. Attaquant de l'équipe de France aussi, très décisif pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais aussi avec un beau triplé en finale, et qui réussit aussi meilleur attaquant du championnat de France avec. Le plus grand nombre de buts, mais aussi une saison complète, quoi, à tous les niveaux. Fort à parier que, au cours des années à venir, il restera dans le trio de tête pour le Ballon d'Or, s'il ne se blesse pas. Erling Haaland, donc de Manchester City, attaquant norvégien, qui a fini deuxième. Et enfin, Léo Messi, 36 ans, attaquant milieu offensif de l'équipe d'Argentine, donc champion de France avec le Paris Saint-Germain, mais aussi. Maintenant, qui est dans la MLS. Donc, un mot sur Messi. Écoutez, c'est pas un énorme scandale si Messi a reçu le titre de Ballon d'Or, mais il a fait une saison, disons, intéressante au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il finit avec 16 buts, 15 passes, donc deuxième meilleur buteur du Paris Saint-Germain et meilleur passeur du championnat de France. Mais à l'Inter Miami, il a quasiment rien fait. Son équipe était dernière lorsqu'il est arrivé et elle a fini avant-dernière. Il n'a pas pu les qualifier pour les playoffs. Il a réussi à gagner un petit trophée comme ça en passant. Mais on reste avec ce souvenir-là de Messi qui a réussi une belle performance en Coupe du Monde. Mais ça va finir quand? La Coupe du Monde, ils ont été sacrés en décembre 2022. On est en novembre, bah, disons, les ballons d'or ont été donnés le 30 octobre. Disons, ils ont dû voter peut-être entre août et octobre. Mais ça fait bientôt un an que c'est terminé. Ces fameux critères selon lesquels c'est l'équipe, enfin le capitaine ou le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde, en année de Coupe du Monde, qui doit gagner le Ballon d'Or. Écoutez, ça suffit là. On a vu ça avec Modric, qui avait des statistiques famélique lorsqu'il a gagné le Ballon d'Or. Mais parce qu'il avait été champion d'Europe avec le Real Madrid, qu'il fallait lui donner ça. C'est gênant. C'est gênant parce que, déjà, le meilleur joueur souvent du championnat, pardon, celui qui reçoit le Ballon d'Or, ok, mais si c'est la 8e fois, c'est un record qui ne sera sans doute jamais égalé. On a tendance à penser qu'il y a un favoritisme qui est fait, disons, quelque part en faveur de Messi. C'est vrai que c'est un joueur qui est intéressant, qui fascine, qui est élégant, qui attire l'attention, qui est la preuve que pour être un grand joueur, on n'a pas besoin d'être une brute, féroce et tout. Mais enfin, c'est compliqué. C'est compliqué d'expliquer pourquoi Messi est, oui, le meilleur joueur du monde probablement, dans les 10 premiers, mais de là, le tout meilleur joueur du monde. J'ai du mal, j'ai du mal. Même si moi je vous dirais, j'ai combien de maillots de Messi chez moi? Peut-être 2, peut-être 3, mais j'ai du mal avec ça. Mais toujours est-il que c'est son 8e trophée de Ballon d'Or, tant mieux pour lui. Voilà, on va conclure là-dessus. Je vais dire un mot maintenant sur les championnats européens, puisque ça commence vendredi. Ça a commencé vendredi, c'est vendredi le 3 novembre. Donc au moment où vous êtes, cette émission est enregistrée, le match n'a pas encore eu lieu entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, le PSG qui reste sur quelques performance intéressante. Maintenant, Montpellier, avec un petit psychodrame, un ancien du PSG qui s'appelle Mamadou. Comment il s'appelle? Oh là là, le nom m'échappe. Mamadou Sakho, voilà, c'est ça qui a eu un genre de incident avec son coach, Michel Zakarian. Apparemment, il se serait chauffé, bousculé à la sortie d'un entraînement. Et Mamadou Sakho a décidé de quitter le club. Dommage pour lui, parce que Mamadou, ouais, moi, ancien supporter du PSG, c'est un ancien du PSG, c'est un Titi, comme on dit, qui a fait de belles choses hein, dans sa carrière, qui est allé jouer en Angleterre, à Liverpool, ça n'a pas aussi bien marché qu'on le pensait, qui revenait en France pour encadrer un peu la jeunesse montpelliéraine. Là, ça tournait au vinaigre et il décidait de partir comme ça. C'est pas partir par la grande porte, mais c'est sa décision, il faut le respecter. Donc là, je disais le vendredi, ça va être le seul match en France, c'est le Paris Saint-Germain contre Montpellier. En Espagne, c'est Las Palmas qui va jouer contre l'Atlético Madrid. Ça peut être un match solide là, puisque Las Palmas est 10e pour l'instant, alors que l'Atlético est 3e. Dans le championnat d'Allemagne, c'est Darmstadt qui sort d'une bonne correction face à Bochum. Donc Darmstadt qui avait perdu 8-0 contre le Bayern Munich, qui va jouer contre Bochum le 16e. En Italie, c'est Bologne qui va jouer contre la Lazio de Rome. Ça, ce sont les matchs du vendredi. On va voir ce qu'il y a le samedi. Est-ce que ça s'affiche? Ok. Il y a la finale de la Copa Libertadores. Donc, c'est la finale, disons, du championnat des clubs en Amérique latine. C'est Boca Junior qui va jouer contre Fluminense. Donc, Boca Junior, club argentin, qui va jouer contre Fluminense, club brésilien. Dans le championnat de France, Lorient va jouer contre Lens, à deux clubs du Nord. Marseille va jouer contre Lille, là ça va être accroché. Je pense que c'est déjà mieux que je fasse un petit mot là-dessus sur les incidents qui ont eu lieu la semaine dernière lors du match qui aurait dû avoir lieu entre Marseille et Lyon. Ben, le bus de l'équipe de Lyon, de l'équipe lyonnaise et des supporters lyonnais était caillassé. C'est une vieille tradition en France là, à savoir que les visiteurs ils reçoivent des pierres sur leur bus. Le problème, c'est que lorsque ils ont attaqué le bus des Lyonnais, les éclats de verre et de débris ont blessé le coach de l'équipe de Lyon, Fabio Grosso, ancien champion du monde d'équipe d'Italie. Si vous regardez les photos, vous tapez juste Fabio Grosso, vous allez voir les images là, c'est incroyable. Il a le visage tuméfié, ensanglanté, c'est affreux. C'est à quel niveau de passion certains fans, moi je vais les appeler pas des fans, des hooligans, puisque même je suis fan de foot ou de soccer, vont aller jusqu'à attaquer le bus et l'équipe. Et ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, le point commun dans tout cela, c'est que c'est souvent Marseille qui est autour de ça. Les supporters de Marseille. Et c'est franchement dommage, parce que j'ai beaucoup d'amis supporters de foot marseillais. La majorité ne se comporte pas comme des voyous comme cela. Toujours est-il que c'est arrivé. Maintenant, Marseille doit jouer contre Lille. Il va falloir se ressaisir assez vite, parce que Lille, c'est l'équipe qui est en train de monter, qui est très en forme dans le championnat de France. Et Marseille, avec un match en retard et déjà 9e, il va falloir y aller très très vite là. Donc, dans les deux, je vais rappeler que dans les deux matchs du samedi soir en France, c'est Lorient, pardon, contre Lens, alors que Marseille va affronter Lille. Dans le championnat d'Angleterre, Fulham contre Manchester United, Manchester City contre Bournemouth, Burnley contre Crystal Palace, Sheffield United contre Wolverhampton, Brentford contre West Ham, Everton contre Brighton et Newcastle contre Arsenal. Ça, ce sera une grosse affiche du samedi en Angleterre. En Espagne, Osasuna contre Giron qui reste deuxième. Grosse surprise là, dans le championnat de l'Espagne, Betis Séville contre Majorque, Celta Vigo contre le FC Séville, alors que la Real Sociedad va affronter le FC Barcelone. Barcelone qui reste sur une défaite lors du dernier match, le Classico, face au Real Madrid. C'est eux qui recevaient donc Barcelone qui aura sans doute à cœur de se racheter très très vite de cette défaite-là contre le Bayern Munich. Maintenant, les matchs du dimanche, c'est Lyon contre Metz. Donc Lyon qui a passé une semaine très agitée, ça a été compliqué pour eux. Là, ça va faire 2 semaines qu'ils n'ont pas joué. Ils sont toujours derniers du championnat de France. Ils ont vraiment intérêt à gagner. Parce que c'est contre Metz. Metz, c'est pas une plus, ce n'est plus une place forte du championnat de France. Donc, interdiction de perdre, tout simplement. Strasbourg va jouer contre Clermont. Toulouse va jouer contre Le Havre. Nantes va jouer contre Reims. Monaco va jouer contre Brest. Nice va affronter Rennes. Ça, c'est en France. Dans le championnat. Ah, je dis jamais de championnat, de mots de championnat féminin en France. Il y aura une belle affiche là, le Paris FC, donc deuxième club de Paris, chez les dames, qui va affronter Lyon. Lyon qui est traditionnellement une place forte du championnat féminin en France. Dans le championnat d'Angleterre, 2 matchs seulement. Nottingham Forest, club historique contre Aston Villa, alors que Luton, le petit poucet, va affronter Liverpool. On va finir avec l'Espagne. Alavés contre Almeria, Valence contre le FC Grenade. Villarreal contre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid qui est toujours en tête face au Rayo Vallecano. Je ne vois pas d'affiche vraiment en Allemagne. En Italie, qu'est-ce qu'on aura? L'Hellas Vérone contre Monza, Cagliari contre Genoa, l'AS Rome contre Lecce et enfin deux grandes équipes de l'histoire du championnat d'Italie, c'est la Fiorentina contre la Juventus de Turin. Je voulais dire un mot sur la MLS, puisque les playoffs ont commencé, il y a eu le premier tour qui a eu lieu. Orlando jouait contre Nashville, ils se sont imposés 1-0, donc ils passent maintenant officiellement aux playoffs. Seattle affrontait Dallas, 2-0, victoire de Seattle, donc ils passent officiellement au premier tour des playoffs. Il y a eu un autre match le 1er novembre, c'est Columbus qui a battu Atlanta, eux aussi passent au premier tour des playoffs. Maintenant, les playoffs en tant que tels vont commencer à partir de cette fin de semaine-là. Au moment où vous écoutez cette émission, les matchs n'ont pas encore lieu, mais ils auront lieu principalement à partir du samedi soir. Donc, ce samedi-là, au moment où je serai en train de souffler mes bougies, il y aura le New York Red Bull qui va affronter Cincinnati, alors que le FC Dallas va affronter Seattle. Et le dimanche, c'est Kansas City qui va affronter Saint-Louis. Et Vancouver, le dernier club canadien survivant qui va affronter le Los Angeles FC. À cette occasion, on va souhaiter bonne chance à mon compatriote Denis Bouanga, qui a fini d'ailleurs meilleur joueur, meilleur marqueur de la MLS, donc la Ligue nord-américaine. On va conclure sur cette première partie de Cédric du Sport avec la CFL, donc la Ligue canadienne de football, donner les classements. Je pense que la saison est terminée, oui, je suis à peu près sûr. C'est donc Toronto qui est en tête dans la conférence Division Est, 16 victoires de défaite. Alouette derrière, 11 victoires, 7 défaites. Hamilton, 8 victoires, 10 défaites. Alors que Ottawa ferme la marche dans la Division Est avec 4 victoires et 14 défaites. Dans la Division Ouest, c'est Blue Bombers de Winnipeg, 14 victoires, 4 défaites. BC Lions, 12 victoires, 6 défaites. Stampede Bears de Calgary, 6 victoires, 12 défaites. Rough Riders de la Saskatchewan, 6 victoires, 12 défaites. Et les Elks d'Edmonton, 4 victoires et 14 défaites. Je vérifie le programme des matchs. Donc, ce vendredi, enfin, cette fin de semaine, pour le premier tour des playoffs, c'est Hamilton qui va affronter les Alouettes à Montréal. Bonne chance aux Alouettes là. Au stade, je pense que ça s'appelle Percival Molson. Donc ça, c'est la demi-finale de l'Est. Dans la demi-finale de l'Ouest, c'est Calgary les Stampeders qui vont affronter BC les Lions. Les finales de division auront lieu la semaine prochaine. D'un côté, les Argonauts donc de Toronto attendent déjà le vainqueur de la confrontation entre Montréal et Hamilton, alors que les Winnipeg, les Blue Bombers, vont attendre les vainqueurs de la confrontation entre Calgary et les BC Lions. Et on annonce déjà que la Grey Cup, donc la finale du championnat de football du Canada, aura lieu le 19 novembre d'ici 2 semaines. C'était sur cette note qu'on finit cette première partie de Cédric du Sport sur Choc FM, le 105.1, la puissante 100% Toronto, 100% francophone. Je suis tout excité là. Je vous ai dit que ça va être mon anniv là. Donc, pourtant, au moment où j'enregistre là, je suis tout seul, j'ai rien fait. Je sais même pas ce que je vais faire cette fin de semaine. Mais bon, je suis content. Vous voyez, c'est une grâce d'être toujours sur cette terre là. Même si on vieillit un petit peu, mais on est content d'être là. Il n'y en a pas qui ont toujours cette chance là. On se retrouve pour la deuxième partie. On va faire un gros format sur la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de hockey. Et sur la NBA, vous êtes sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. On revient après les publicités pour cette deuxième partie de Cédric du Sport en ce samedi 4 novembre 2023. Restez avec nous.